Rebonjour à tous. Alors, j'ai 10 secondes pour vous parler de... Non, je ne sais pas combien j'ai. Un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, pour vous parler de DocumentDB. Encore une solution de stockage de données. Hein, c'est du quasiment tout data cet après-midi. Donc, DocumentDB, c'est une nouvelle offre qui est actuellement en preview, qui vient de sortir, qui vient complémenter, on va dire, les services de gestion de données as a service dans Azure. Donc on a parlé de SQL Server sur des VM, on a parlé de Azure SQL Database. Et vous savez, j'imagine, qu'on a également des offres de stockage. Okay, stockage dans lequel on a les blobs, essentiellement stockage de fichiers, et puis on a quelque chose qui s'appelait les tables. Donc les tables, c'était jusqu'à présent notre offre NoSQL as a service, même si les tables avaient des particularités qui ne les rendaient pas forcément super simples à utiliser dans tous les cas, notamment les tables Azure ressemblaient plus à du key value store. On n'avait pas réellement de capacité à faire des requêtes complexes sur le contenu des tables Azure. Par contre, elles avaient quelque part de l'auto-scaling, une évolutivité quasiment infinie. On pouvait stocker des teras de données dessus sans avoir à s'occuper de la mise à l'échelle. Et donc, DocumentDB, ça vient s'insérer un peu entre SQL Database et du Table Storage. L'idée, donc, c'est d'avoir une base NoSQL plus proche de ce qu'on entend par NoSQL, et notamment, comme son nom l'indique, de base de données type document comme MongoDB. Donc, alors, DocumentDB, ce n'est pas un endroit où on stocke des documents Word, c'est un endroit où on store des documents au sens programmatique du sens, donc des documents JSON. Donc, c'est une base de données nativement JSON. Donc, on y stocke des objets. Ces objets sont sous la forme donc JavaScript Object Notation, qui est une notation texte hein, qui vient du monde JavaScript, qui permet de représenter des objets au sens large. Donc des propriétés, des valeurs, des tableaux, et puis une notion arborescente, donc des objets pouvant comprendre des sous-objets ou sous-documents, comme on voit un peu là. Et puis bien entendu un système de type, hein, hérité de suite JavaScript, donc assez simple, string, int, boolean, etc. Il y a deux, trois trucs amusants là-dedans, mais globalement ça permet de représenter à peu près tout type d'objets, complexe, d'accord, et donc de mapper des objets facilement, qu'ils soient du monde .NET, Java ou JavaScript. Donc tout se fait en JSON et sur des API REST, okay, et on a par-dessus des SDK que je vous montrerai qui sont d'ores et déjà disponibles. Contrairement à la plupart des autres solutions de données, DocumentDB est sans schéma, d'accord. Donc on n'a pas besoin de définir, comme dans Azure Search, le schéma, ou comme dans, bien sûr, des bases SQL, le schéma des données qu'on va envoyer. D'accord ? Donc quand on crée une collection, on va voir dans DocumentDB, on peut y mettre n'importe quel type d'objet. Okay ? Ils peuvent être tous pareils ou tous différents, on s'en fiche. Il n'y a pas besoin de définir le schéma à l'avance. Et c'est un des principaux bénéfices, on va dire, des approches NoSQL, puisqu'on sait que dans une solution logicielle quelconque, quand il y a une base de données et qu'il y a un schéma, le schéma devient un peu le goulot d'étranglement où toutes les problématiques de changement de schéma s'accumulent. Donc si on veut modifier l'aspect des données qu'on veut sauver en base, il faut modifier le schéma. Pour modifier le schéma, ça impacte tout le reste de l'application. Il faut déployer le nouveau schéma. Le déploiement est complexe. La gestion de tout ça est assez complexe. Un des bénéfices de NoSQL, c'est de se débarrasser de tout ça, il n'y a plus de schéma. On peut stocker les objets sous n'importe quel format sans avoir à le prédéfinir par défaut. Alors souvent, quand on prend par exemple une base comme MongoDB, qui procède du même principe, il n'y a pas de schéma, on envoie des objets en format JSON n'importe comment, n'importe quel format, tout va bien. Mais à un moment donné, quand on va vouloir faire des requêtes, il va falloir décrire les index. On va devoir définir des index, comme on a vu dans Azure Search, c'est le même principe. On va dire, je veux indexer sur le nom, je veux indexer sur telle date, je veux indexer sur tel entier. Et quand on fait ça, quelque part, on définit un schéma, hein, puisqu'on fixe la position des index et leur nature. Donc dans DocumentDB, par défaut, et sans qu'on ait rien à faire, tous les champs sont indexés. D'accord ? Donc j'envoie un document avec 10 propriétés, par défaut, tout est indexé. D'accord ? Alors, bien sûr, il y a des limitations, hein, ce sont des index par valeur, par défaut, donc par hash, en fait. Donc je peux faire une requête et retrouver un élément précis, sans avoir à rien faire, sans avoir à définir d'index. D'accord ? Donc j'envoie ce que je veux, je ne définis pas d'index, et malgré tout, tout est indexé et disponible rapidement. Donc ça, c'est une différence par rapport au table storage, où l'une des fonctionnalités les plus demandées depuis le début d'Azure, c'est les index secondaires. Donc aujourd'hui, en table storage, qui est une des choses avec lesquelles on va comparer DocumentDB le plus, il y a un seul index par table, enfin, il y a une sorte d'index double, on va dire. Et si on veut plus d'index, il faut les gérer soi-même. Donc il faut qu'on maintienne d'autres tables avec des index pointant sur la table principale. C'est quand même pas mal de boulot. Là, on a pris le parti pris inverse. Tout est indexé, par défaut. Voilà, sans rien à faire. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, on en dit qu'elle est vraiment sans schéma. Donc au-delà des capacités de requête, on a la possibilité d'avoir des procédures stockées, des triggers et des UDF, donc des fonctions définies par l'utilisateur. Pour ce faire, on supporte des procédures en JavaScript. D'accord ? Donc on peut écrire des procédures stockées qui vont être exécutées au sein de la base ou de la collection DocumentDB qui s'écrivent en JavaScript. D'accord ? Donc avec les procédures stockées, on peut faire des choses comme des manipulations multi-documents, transactionnelles côté serveur. Donc si on doit faire des agrégations, des choses comme ça, on n'a pas besoin de récupérer les documents sur un client, faire des calculs, envoyer un document. On peut faire tout ça côté serveur avec des procédures stockées, par exemple. Avec les triggers, on peut déclencher des fonctions sur un événement. Et puis avec des UDF, on peut étendre les requêtes en écrivant des fonctions utilisateurs. Autre on va dire, caractéristique de DocumentDB, donc la cohérence. Donc dans les systèmes NoSQL, là aussi la cohérence, donc la consistency, donc si on prend le terme anglais, on parle beaucoup d'eventual consistency. Donc en français, on va essayer de dire intégrité finale ou cohérence finale. La question, c'est en fait, par rapport à une base, base SQL classique, où quand je fais une transaction, elle est écrite. Si je relis ma donnée, j'ai tout de suite la valeur qui a été mise à jour. Dans les systèmes NoSQL, il y a généralement une cohérence qui permet d'avoir plus de scalabilité, parce qu'on va pouvoir mettre beaucoup de nœuds, de partitions, et répartir beaucoup plus les données pour pouvoir monter en charge. Mais en échange, on a une cohérence qui n'est pas immédiate, parce que parfois, il faut un petit moment pour qu'une update soit, par exemple, mise à jour sur tous les nœuds. D'accord ? Donc ici, DocumentDB, c'est un peu le même principe. Il y a un système master-slave que vous ne voyez pas du tout, qui est caché, mais que nous, derrière, on gère. Mais par contre, plutôt que de vous imposer un modèle de consistance et de vous dire, c'est éventuellement consistant, pour mal traduire le truc, mais c'est éventuellement consistant, on vous offre un réglage. Vous pouvez régler la cohérence de la base et comment on doit la gérer avec une sorte de curseur. D'accord ? On peut aller de cohérence forte. Donc là, on va dire que quand j'écris, je veux que mon écriture soit réalisée sur tous les nœuds, de façon à ce que si je refais une lecture tout de suite, je sois certain d'avoir ma valeur mise à jour. Jusqu'à l'autre extrémité du spectre où j'ai une cohérence éventuelle. Enfin donc, finale, plus tard. Donc ça veut dire que j'écris et si je relis, je peux ou ne pas avoir la valeur mise à jour. Et ça peut durer, on ne sait pas, il n'y a pas de garantie, plusieurs secondes peut-être. D'accord ? Donc ça, c'est l'extrémité du spectre. Bon, ce que je gagne par contre, dans ce cas-là, c'est que je vais pouvoir avoir beaucoup plus de performance, notamment en termes d'écriture. Donc si j'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écriture, et que je ne suis pas pressé de les voir arriver, mais si j'ai quelques secondes avant que ça arrive, je vais pouvoir passer en mode éventuel, et j'aurai de bien meilleures performances, je pourrai écrire beaucoup plus vite. Et entre les deux, on a un mode session, qui garantit une forte cohérence uniquement pour une session utilisateur. Donc si je suis connecté, sur cette connexion-là, j'aurai une forte cohérence des données. Donc si moi j'écris, je pourrai relire moi ma donnée tout de suite, mais pas forcément les autres. Et puis un mode de cohérence un peu plus subtil qui est bounded, donc où je dis, j'accepte d'avoir jusqu'à X secondes de retard sur la data. Donc j'écris, d'accord, et je veux bien accepter 3 secondes de retard, mais pas plus. Et là, donc, on va vous garantir qu'au bout de 3 secondes, vous aurez votre nouvelle valeur disponible. Donc une cohérence réglable, ça c'est une des caractéristiques principales de DocumentDB. Finalement, c'est un service. D'accord ? Donc aujourd'hui, DocumentDB n'existe que dans Azure, que sous forme de service. Sur pas d'installation, pas de configuration à faire, et une montée en charge qui se fait par simple réglage. Donc je peux demander plus de ressources, donc on a un principe d'unité de capacité, je peux demander plus d'unités de capacité pour monter en charge. Donc on va regarder tout ça après dans le portail. Donc DocumentDB, c'est quelque chose qui a été purement développé en interne chez Microsoft, c'est de la pure techno maison, qui est fortement testé chez MSN, actuellement en interne, où c'est utilisé pour stocker quelques dizaines de téras de données JSON. Donc c'est nouveau, c'est écrit maison, mais c'est déjà pas mal, ça a déjà pas mal été testé sur le terrain. Alors avant juste de regarder dans la pratique à quoi ça ressemble, quelques petits, petites notions en fait de comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'une base de documents de DB, ça s'appuie sur un compte, hein, c'est un peu comme un compte de stockage. Okay. Et ensuite, toutes les ressources qui vont derrière s'adressent par un URL. Et encore une fois, un peu comme le compte de stockage ou comme le service bus, si vous avez été habitué. Donc on va créer dedans des bases de données, une database. Et à l'intérieur, on va avoir des collections. Alors des collections, encore une fois, bon, si on veut faire un raccourci, on peut dire que c'est un peu comme des tables. En fait, c'est un conteneur d'objets, à part que, contrairement à une table, il n'y a pas de schéma. Donc c'est un conteneur, je peux y mettre n'importe quoi. Et les procédures stockées, les triggers, les fonctions, etc. sont spécifiques à une collection. D'accord ? Dans la collection, il y a les données, puis les fonctions qui vont avec. Et bien entendu, on a un modèle de sécurité qui est associé à DocumentDB, donc on peut définir des utilisateurs, des permissions qui pourront avoir accès à certaines bases de données ou à certaines collections. Donc derrière, tout ça est, encore une fois, c'est partitionné et répliqué. Donc on vous donne un SLA et on vous donne des garanties de performance en fonction des unités de capacité qui ont été acquises. À la base, toute l'API reste, comme d'habitude, reste JSON, HTTP, voire TCP, même si on veut aller plus vite, pour se débarrasser un peu d'overhead de HTTP. Et on a des SDK, donc d'ores et déjà, des SDK .NET, Node, Python, et un SDK JavaScript donc, qui est spécifique aux fonctions. D'accord ? Donc quand on va développer les fonctions JavaScript, on a un petit SDK pour développer ces fonctions qui s'exécutent dans DocumentDB. Et ce que je vais vous montrer alors, que je n'ai pas encore mentionné, c'est comment est-ce qu'on requête. Donc il y a une API de requêtage bas niveau, on va dire REST, mais ce qu'on pousse, c'est l'écriture de SQL pour effectuer ces requêtes. Donc on a la possibilité de faire des requêtes SQL ou Link en .NET et d'exécuter les requêtes directement sur DocumentDB avec un sous-ensemble du SQL et un sous-ensemble Link, puisque tous les verbes SQL ne sont pas supportés. Mais donc ça permet de démarrer très rapidement pour faire des requêtes dans DocumentDB. Et comme je l'ai dit, les procédures stockées, c'est du JavaScript. Voilà. Alors on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Ça, non, je ne vais pas le garder. Donc comme beaucoup de nouveaux services dans Azure, on ne le voit pas. Si. Fantastique. On le trouve dans le nouveau portail. J'espère que je suis bien en résolution là. J'en sais rien du tout. Ouais, ça a l'air bon. Donc dans le nouveau portail, portal.azure.com, c'est là qu'on trouve DocumentDB. On le trouve dans New. Il est là, parce que là il est en tête de gondole ces temps-ci. DocumentDB il est là. Sinon, si on veut être sûr de le retrouver plus tard, on va dans Everything. On a Data and Analytics. Je crois que c'est là. Ouais. Et là on trouve Azure Search, qu'on vient de voir, un certain nombre d'autres choses. DocumentDB. Pour créer une base DocumentDB, c'est assez simple. On lui donne un nom. On va choisir donc le nombre d'unités de capacité. Donc chaque unité de capacité vous donne 10 gigas et 2000 requêtes secondes. Alors, comme pour SQL Database, une requête étant définie par un truc super compliqué qu'on a testé nous, on vous en donne 2000 de ces trucs-là. Par contre, en fait, bon, après, si on va voir dans le portail, à chaque fois que vous faites une requête, en fait, dans les métadonnées qui reviennent, il y a le coût de cette requête. Donc ça va vous dire combien d'unités vous avez utilisées pour cette requête-là, 0.0.94. Vous êtes capable de tester, d'évaluer la complexité de vos requêtes et de vous dire, par rapport à mes 2000 unités que j'ai, combien je pourrais en faire par seconde, globalement, et choisir le nombre d'unités de capacité qu'on veut. Aujourd'hui, on est limité à 5 en preview, mais on pourra en avoir plus. On va le mettre dans un groupe de ressources, et on va le mettre quelque part. Donc aujourd'hui, on a North Europe, West Europe pour l'Europe. Voilà. On fait créer, et comme ça prend quelques minutes, comme c'est marqué là en dessous, évidemment, je sors du four une base déjà créée. Alors, hop, là. Enfin, un compte. C'est le compte qui prend un petit moment à créer. Après, une fois dedans, créer des bases ou créer des collections, ça se fait simplement. Donc, une fois que j'ai créé ma base, j'ai une nouvelle blade, là, une nouvelle lame qui apparaît, avec tout ce qu'il faut dedans pour utiliser ma base. Donc, globalement, j'ai du monitoring, que vous ne voyez pas complètement branché là. J'ai mes logs des vêtements, donc ça c'est plus les opérations qui ont été menées sur la base, donc configuration, démarrage, création, etc. J'ai mes bases, donc ça c'est des bases qui sont dans mon compte de base de données. Donc ils sont dans le même groupe de capacités. L'utilisation du quota qui va arriver, ça prend toujours un petit moment à s'afficher. Et puis actuellement, j'ai configuré 4 unités de capacité. En dessous ici, j'ai donc la première chose dont je vous ai parlé, c'est le réglage de la cohérence. D'accord ? Donc ça se règle au niveau du compte de base de données. Donc l'ensemble de ce qui est stocké là-dedans va être soit en mode strong, donc pas défaut, on est en mode session, donc j'ai une forte cohérence pour ma connexion. D'accord ? Et par exemple, si j'ai besoin de de charger beaucoup de données de faire un gros batch qui aille le plus vite possible, je vais passer en mode éventuel, par exemple, pendant un petit moment, et ensuite le remettre en session. Ce mode de cohérence est aussi réglable connexion par connexion. D'accord ? Donc là, c'est le mode par défaut dans la base. Quand j'ouvre une connexion, je peux dire, tiens, cette connexion, je voudrais qu'elle soit en strong ou en éventuel. Okay ? Donc là, c'est plus le mode qui sera utilisé par défaut si on n'en précise pas lors de l'ouverture de la connexion. Quand vous avez créé votre base, vous allez trouver des propriétés. Bon, ça, c'est les réglages actuels. Vous allez, un peu sur le même modèle que le storage, trouver ici les clés qui vont permettre de connecter à cette base. D'accord ? Donc il y a un URL avec le nom que vous avez donné, et puis une clé. Okay. Il y en a 2 par défaut, donc comme d'habitude, on peut en utiliser une, la révoquer si on a besoin, etc. Okay. Dans un compte de base de stockage, on a donc des bases, okay, ça ressemble à ça, et dans une base, on a des collections. Une collection, en voilà une collection de température. Donc voilà, éventuellement j'aurai les stats par objet, par base, par collection. Et à chaque niveau ici, on voit qu'on a un document explorer, un query explorer. Donc ça vous permet d'avoir un premier niveau d'exploration de la base. Donc ici dans les températures par exemple, il me charge un certain nombre de documents. Donc là je vois des ID, bon c'est pas super visible, mais je vois globalement que voilà les documents que j'ai dans ma collection. D'accord ? Donc j'ai envoyé les documents dans lequel j'ai un timestamp, un ID de device, une température. Donc là, ils sont à peu près tous du même format, mais encore une fois, je n'ai pas précisé de schéma, et je peux envoyer tout type d'objets là-dedans. Ce que j'ai aussi avec ma base, ma collection, c'est un petit Query Explorer, qui me permet de faire quelque chose comme temp T, de faire des select étoiles. Donc select étoile from quelque chose, donc ça c'est simple. On voit que ça ressemble à du SQL, mais effectivement, donc on a globalement un moteur qui va prendre du SQL et qui va le transformer en requête DocumentDB. Donc on va pouvoir faire des choses comme t.température. Donc on a quelque chose d'assez classique. On peut faire des projections. C'est une sorte de petit mix de SQL et de JSON. On peut faire des projections de JSON, des choses comme ça. On peut faire du where, device ID égale 1, etc., etc. Donc on a du SQL globalement. On peut faire des jointures. Alors on peut faire des jointures. Donc une des règles généralement aussi des principes de SQL, c'est souvent qu'on n'a pas de join entre les différents objets. Donc là c'est un peu subtil. On a des join, mais à l'intérieur d'un document et de ses sous-documents. D'accord. Donc on peut pas faire de join entre plusieurs collections. Donc ça reste, la projection SQL reste un petit peu particulière parce que le join notamment n'est pas un vrai join SQL. C'est plus quelque chose qui permet de faire une projection un peu complexe d'un objet dans lequel il y aurait des sous-objets ou des sous-collections. Donc voilà rapidement les queries, le SQL. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de développement ? Donc comme je vous ai dit, on a un certain nombre de SDK disponibles. On a du .NET et on a du Node. Donc j'ai regardé un peu ces deux-là. Alors, premièrement, comment on fait pour envoyer des objets dans la base ? Donc là, j'ai un petit script de test qui m'envoie quelques documents dans ma base. Donc ça envoie des documents. Là, ce qu'il affiche, on va regarder, hein, c'est un peu les identifiants qui sont utilisés en interne par l'API, en fait, qui sont un peu cachés par l'API. Donc en fait, tous les objets en bon mode REST sont tous représentés par des URL. C'est ce qu'ils appellent en interne dans l'API les self-links. Okay, donc ça représente par exemple ma collection, donc c'est son ID, dans ma base. En fait, d'accord. Donc ça, c'est intéressant de savoir parce qu'on va voir une grande partie de l'API à utiliser juste pour trouver ces self-links. Si on les connaît, une façon rapide de faire et de les hardcoder directement, si on veut juste faire des petits tests. Donc là, par exemple, juste une insertion en base en utilisant Le SDK Node, à quoi ça ressemble? Donc on a dans NPM un module DocumentDB qu'on a là. On a un document client. Le document client, on lui donne l'URL qu'on a vu tout à l'heure. On lui donne la master key. Et ensuite, donc, ce qu'on va essayer de trouver, on va essayer de retrouver ma base qui s'appelle Tcell. Hein, on l'a vu rapidement dans l'explorateur, là, ma base qui s'appelle Tcell. Et ma collection qui s'appelle Temp. Okay. Donc pour les trouver, et encore une fois, si je ne veux pas hardcoder les URL, je vais utiliser des requêtes SQL. Il y a une collection spéciale qui s'appelle Root, qui va pouvoir me retrouver, permettre de retrouver mon objet base de données, donc avec son identifiant, ici, Tcell. Je vais réussir à trouver ma base, et notamment son self-link, d'accord, qui est ce que je log, donc l'URL finalement de cette base. Et puis avec cette URL, ici, je vais pouvoir retrouver la liste de toutes mes collections, retrouver la collection qui m'intéresse. Et une fois que j'ai la collection, qui est ici, bon, si elle n'existe pas, là, je la crée, donc ça permet de voir un petit peu comment on crée une collection ici. Je vais aller insérer de la donnée, simplement sur la base de cette collection. Je lis simplement un fichier qui est rempli de données JSON. D'accord ? Donc c'est chaque ligne, un objet JSON par ligne. Je lis tout ça dans un tableau. Et ensuite, je vais en envoyer, là j'en envoie 10 par seconde, juste pour rigoler. Donc comment est-ce que je fais ? Je prends l'objet. Donc là c'est un objet JavaScript qui est dans un tableau JavaScript. Et puis je fais create document et je lui passe directement l'objet. Donc il n'y a pas de mapping, ORM, il n'y a rien du tout. Je prends un objet JavaScript et je l'envoie tel quel à la base et il la stocke. Et ça va être le même principe pour tous les SDK. Donc par exemple en .NET, on va pouvoir mettre un objet .NET tout simple. Il est envoyé en interne à la bibliothèque JSON Newtonsoft et il est transformé en JSON et envoyé tel quel. D'accord ? Tout simple, rien à définir, etc. Pour visualiser un peu mieux la DocumentDB, là, on a un projet qui s'appelle DocumentDB Studio, qui est sur GitHub, qui est sympathique parce qu'il est un peu plus visuel. Donc on peut voir un peu mieux la hiérarchie des objets. Donc ici, j'ai mon Tcell, donc ça c'est ma base, hein, ça c'est ma collection, et puis tous les objets dans la collection. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est que donc on a la possibilité d'avoir, en plus de mes données, qui sont là, ça sont mes objets, on les reconnaît que j'ai vu tout à l'heure, je peux avoir donc des fonctions utilisateurs. Donc ça sont des fonctions que je vais pouvoir utiliser dans mes requêtes SQL pour augmenter, on va dire, le vocabulaire SQL à ma disposition. Donc par exemple, si je retourne dans le Query Explorer ici, on va mettre température, Query Explorer, s'il est sympa, il m'a gardé ma requête. Je peux rajouter inverse, petite fonction très utile, qui calcule l'inverse de la température. Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir, mais c'était juste pour illustrer une fonction. Voilà, cette fonction inverse, c'est celle-là. Elle fait 1 sur input, donc elle check que input est différent de 0. Voilà, donc c'est une petite fonction JavaScript. Comment est-ce que je fais pour l'envoyer, cette fonction JavaScript? Là aussi, il y a une API qui, comme on est pas mal sur des principes qui s'appliquent, enfin, qui viennent de JSON, qui viennent de JavaScript, je trouve que ça s'illustre assez bien avec le SDK Node. Donc pour créer cette UDF, c'est assez amusant, donc on retrouve la connexion, hein, comme d'habitude. En fait, j'écris ma fonction directement en JavaScript. Donc ici, en fait, c'est un objet dans lequel il y a un ID et puis une propriété body qui contient la fonction que je veux transformer en UDF. Et donc je prends cette fonction et je l'envoie direct, là encore, à DocumentDB, et ça devient une fonction utilisateur. Donc d'un autre environnement, j'écris mon JavaScript, j'envoie le texte tel quel, et c'est stocké sous forme de procédure stockée. Et avec ça, donc, je peux ajouter des fonctions prédéfinies. Alors ces fonctions, un peu comme on le voit là, hein, globalement, elles sont utilisées dans la projection, dans la partie projection de la requête, donc elles peuvent faire des calculs, des choses comme ça. Elles ne peuvent pas manipuler plusieurs documents. Okay. Si on veut manipuler plusieurs documents, on a autre chose qui sont des procédures stockées. Donc là, je n'ai pas été beaucoup plus loin que le Hello World, mais globalement, la procédure stockée par rapport à l'UDF a accès au contexte et donc notamment à la collection. Et donc elle est capable d'aller elle-même faire une requête, récupérer plusieurs documents et faire un calcul. Par exemple, si on veut faire un truc tout bête comme une moyenne, il n'y a rien dans le dialecte SQL par défaut pour même faire un count. Okay, donc si je veux faire un count, typiquement, ça va être une procédure stockée qui, elle, pourra côté serveur faire ce qu'il faut pour faire un count. Plus probablement, on aura peut-être intérêt à faire des triggers, des choses comme ça, mais bref, on peut faire des opérations multi-documents depuis une procédure stockée. Ok, donc ça c'est document DB Studio, quand même bien pratique pour typiquement aller voir une procédure stockée et puis l'exécuter. Je peux l'exécuter comme ça pour la tester. Ensuite, côté .NET, on a bien sûr un SDK aussi .NET, hein, avec cette petite démo là, enfin ce petit tutoriel qui est disponible sur GitHub, hein, dans le GitHub de DocumentDB, qui globalement vous montre, comme vous voyez, l'API est très proche. Hein. On a idem un document de client, on lui donne l'endpoint, la clé, etc. Tout ça fonctionne de la même façon. Et ici, il va me créer une petite base et permettre d'illustrer en fait des requêtes, les diverses façons qu'on a de faire des requêtes en .NET. Donc on a la possibilité de faire une requête directe en SQL, donc un select étoile, from, where, etc. Mais évidemment, comme on pourrait s'y attendre, on a aussi le support link. Donc là, c'est le link direct depuis C#, donc le from f in client, etc., where, select. OK. Et j'ai fait F5, donc ça du coup, ça se termine plus tard plutôt que prévu. Et la même chose avec des lambda, avec les lambda link, qui sont sympas aussi. Donc le SQL, le link, et les lambda. Donc ici, on crée une document query et on fait des points where, des points select, si on préfère utiliser des lambda plutôt que le link par défaut. Et comme je vous disais, on peut faire des joins. Bon là, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer vraiment l'intérieur de la base, mais globalement ici, children, c'est en fait une sous-collection, sous-family, un tableau qui est children, et le join permet de remettre à plat par exemple l'ensemble des enfants pour un ensemble de familles. Donc le join, il est à l'intérieur du document lui-même, il n'est pas avec une autre collection, ni même avec d'autres documents dans la même collection. Voilà. Et puis on a dans les démos aussi un petit exemple sympathique qui est une to-do qui permet de voir, parce qu'on parle quand même de développement web, de voir l'application de DocumentDB l'utilisation de DocumentDB dans une application type MVC, donc quelque chose qui permet de faire des to-do listes, présenter la chose, voilà, créer. Donc ici, ça va dans une autre collection, dans ma petite base ici. Vous me dites, il n'y a plus de temps. Hein. Je suis à moins combien? Moins 20? Ah ouais, ça fait long quand même. Bon, donc globalement, je vous montre rapidement que ça me stocke des éléments dans To-Do List ici, voilà. Voilà, Document Explorer. Juste pour vous montrer la tête qu'ils ont, parce que sinon ça va être quand même difficile à suivre. Voilà. Donc j'ai ID, name, famille, description. Donc ça, c'était tel que l'application venait. Et si je veux rajouter, par exemple, un champ comme note, donc l'intérêt quand je fais du dev web, par rapport à un modèle typiquement où je vais devoir stocker des requêtes, links, où je vais devoir avoir un schéma associé à mes objets, ici, si vous voulez, mon objet, il est simplement défini par cette classe-là, qui est stockée directement en base. Et donc, si je veux ajouter des champs et les sauver en base, j'ai uniquement à ajouter les champs dans l'objet ici. Comme l'objet, il est sérialisé, sauvé en JSON directement dans la base, si je veux ajouter des champs, je les rajoute dans l'objet. Au moment de la sérialisation, il y aura les champs supplémentaires. DocumentDB sera très content de les sauver. Et donc, je peux faire évoluer mon modèle de données sans avoir à modifier le schéma. Et là, visiblement, je vais pouvoir vous le montrer en live, mais globalement, j'ajoute des champs ici, et ça va automatiquement les rajouter dans la persistance en base de données, sans avoir à gérer le schéma. C'est l'intérêt, évidemment, quand on va faire du dev NoSQL, ça va un peu plus vite qu'avec du SQL classique. Voilà. Et en conclusion, on dit quoi? En conclusion, je vous dis merci. Je ne sais pas, j'ai quelques liens, non? Ok, bon, d'accord. Bon, merci beaucoup. Et donc, oui, on a plein de documents. Hein. Alors, vous cherchez Azure DocumentDB et vous tomberez dessus. 2.
C'est moi.
C'est moi qui ai gagné. Vas-y alors.
Donc, si on va reprendre le cours de cette présentation, pour enchaîner sur les web jobs. Les web jobs.
Avec le bouton, c'est mieux. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette session avec Florence Antin.
Bonjour.
Auteur à succès sur le cloud, qui a des activités nombreuses et variées chez Infinite Square. Donc les web jobs, ça sert à répondre à des problématiques qu'on rencontre assez souvent lorsqu'on met en place une application. Donc des problématiques de récupération de données externes, de lancement de traitement en tâches de fond asynchrone, nettoyage, optimisation des données. Donc on a ce type de problématique qui est assez fréquent. On y répond avec différents bricolages autour de la mise en place de scripts, de batch, monter des services Windows, dans du worker role, enfin bref. Et il y a tout un ensemble de patterns qui existent dans la littérature pour adresser ce type de problématique. Alors j'aurais bien passé une heure avec vous pour vous parler de celui-ci, qui est pattern scheduler ou celui-là, mais on n'a pas le temps. Et donc je passe la parole à Florent pour nous parler des technos qui sont proposés sur Azure pour implémenter ce type de solution.
Ok. Donc pour faire tourner un batch, un script dans Azure, donc on n'a pas attendu les web jobs pour le faire. Donc historiquement, on utilisait des worker roles. Donc les worker roles, ça existe depuis le début d'Azure. Tous ceux qui ont fait du dev dans Azure ont forcément été confrontés à ça. Donc ça vous permet vraiment de faire tourner tout et n'importe quoi à partir du moment où ça fonctionne dans Windows. Donc c'est un modèle axé PaaS, donc ça nécessite des compétences en développement. L'avantage, c'est que c'est du PaaS, c'est scalable. Nous, développeurs, on aime bien, on comprend bien, c'est facile à mettre en place pour des scénarios simples. Par contre, dès qu'on arrive dans des scénarios compliqués, ben, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté au debugging de worker role, ben, quand ça plante, pour aller débugger, c'était vraiment pas terrible. Par contre, ça nous a rendu énormément de services depuis le début d'Azure. C'est avec ça qu'on a fait tourner les premiers serveurs pour faire tourner du Java dans Azure, pour faire tourner tout et n'importe quoi dans Azure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça nous donne par programmation la main sur la machine PaaS pour installer ce qu'on veut à partir du moment où on est capable de le scripter. Petit inconvénient, scheduling. Donc j'ai quelque chose qui tourne, mais pour un peu que je veuille avoir un planificateur pour un script qui s'exécute à 2h du matin, il fallait redévelopper tout l'algorithme de scripting et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle à faire. Et arrivé un petit peu plus tard, le YAS, qui nous a finalement pas mal aidé, puisque ça a été un peu, vous les petits devs, à faire tourner vos scripts bizarres, indébugables là-dedans. Nous, on va installer nos bonnes vieilles VM, et puis on va vous faire tourner vos serveurs que vous essayez de scripter ici pour faire tourner vos jobs. Vous voulez faire tourner une tâche en continu ? Nous, dans Windows, on a les services Windows. Vous avez besoin d'un scheduler ? Nous, dans Windows, on a un scheduler. Donc, au lieu d'essayer de scripter des choses, venez utiliser nos VM. Seul inconvénient avec ça, pour moi, c'est que ça reste du YAS, donc il faut installer une VM, il faut gérer une VM, il faut mettre à jour une VM, et puis la scalabilité même sur le scheduling peut laisser à désirer. Par contre, ça répond à un vrai besoin. Et arrive le petit nouveau, le web job, qui est orienté PaaS, qui est simple, complet. En fait, on va utiliser la notion de website, on va venir s'héberger dans un website, qui va avoir l'avantage d'être pouvoir être utilisé par un IT comme par un dev, et on va pouvoir bénéficier d'un vrai scheduler, sans avoir à gérer l'OS. Donc on est vraiment dans une approche PaaS, comme c'était le cas avec les web roles. Donc aujourd'hui, il reste les trois modèles. Donc vous avez quelque chose à faire tourner, un script, un batch, quoi que ce soit, vous pouvez toujours utiliser les trois. Maintenant, moi, j'ai toujours tendance à dire, finalement, aujourd'hui, entre le YAS et le web jobs, vous allez couvrir 95% des cas et il va rester un 5% pour vraiment du spécifique dans le worker role. Si on zoome un petit peu sur les web jobs.
Donc un web job, vous l'avez compris, c'est ni une VM ni un cloud service, c'est hébergé dans les websites. Par contre, on peut très bien mettre en place un web job sans avoir de website qui en tire partie. Ça va tourner dans le processus IS, donc tant que celui-ci sera disponible, donc vous avez une fonction always on qui est très intéressante sur le website que je vous invite à utiliser si vous voulez avoir un web job qui tourne en continu. Vous allez pouvoir bénéficier de l'infrastructure des websites, y compris pour le modèle de scaling. Donc, vous allez pouvoir configurer ce modèle de scaling et vous allez pouvoir rendre vos webjobs autoscalables. Et vous bénéficiez en gros de tous les avantages du website. C'est-à-dire, vous avez également le mode staging qui vous est proposé pour faire du smoke testing dans Azure ou le mode gratuit tout simplement. Alors, si vous faites de l'autoscaling, là, ça commence à devenir payant de toute façon. Et créer un webjob, en fait, c'est vraiment très simple. Florent va vous montrer tout ça. Donc soit vous avez un profil plus IT et vous allez faire un script PowerShell, un fichier commande, un script Python.
Voilà.
Soit vous êtes plutôt .NET. Alors Florent, il est un peu, il touche à tout, mais je crois qu'il va nous faire un peu de .NET. Non, les deux en fait.
On va essayer de faire de l'IT. C'est pas du tout ma spécialité. Donc on va vous montrer qu'on peut faire des choses simples. Alors, concrètement, je suis dans mon portail Azure, ici. Donc j'ai un site web que j'ai créé juste avant, que j'ai appelé Web Job Hosting, mais peu importe, qui est en fait un site web dans lequel je n'ai déployé aucun code source. Donc il n'y a rien qui tourne. Il n'y a pas de site web, donc c'est un 2IS vide. Je vais juste l'utiliser, non pas pour déployer un site web, mais pour faire tourner mes web jobs. Donc ici, je suis dans une interface en français, donc j'ai la notion de tâche web ici, dans laquelle je vais pouvoir venir déployer des web jobs qui vont tourner au travers de mon process 2IS. Donc j'insiste sur ce qu'a dit Stéphane. Pour que vos web jobs tournent, il faut que le process 2IS soit actif. On sait que par défaut, au bout de 20 minutes, un 2IS peut s'éteindre. Donc, dans ce cas, vous de configurer votre 2IS pour être always on, pour avoir toujours des threads disponibles. Donc ici, j'ai déjà quelques scripts qui ont été déployés. Je vais en rajouter un pour montrer que c'est simple. Et donc là, ce qu'on me propose, c'est de définir un nom de web job. Donc on va l'appeler test script, par exemple. Et je vais venir uploader, on me demande un fichier zip qui contient mon script. Donc on va faire un script très très simple. On va vraiment faire le plus simple possible. On va l'appeler script. J'en avais déjà un. Ce sera script 1, peu importe. Et je vais faire une commande echo test, peu importe. Ok. Je vais le renommer demo.cmbat, par exemple. Ici. Et on me propose, on me demande d'en faire un zip. Pourquoi un zip? Parce que je pourrais avoir un ensemble de scripts dont j'ai besoin, un ensemble de fichiers liés. Donc j'ai jusqu'à 100 mégas de données que je peux mettre là-dedans, donc ça laisse des possibilités. Et ensuite, je vais juste me contenter de venir ici charger mon zip. Je vais dire que je veux l'exécuter à la demande. Et là, il va se mettre à créer mon job. J'ai fini le travail pour faire tourner mon script dans Azure. Donc il est prêt. Ici, je vois que c'est une exécution à la demande. Et depuis ici, je peux venir l'exécuter une fois. Si j'ai une erreur, ça va apparaître. Et là, je vois que ça s'est bien passé. Je peux le réexécuter autant de fois que je veux. Et c'est bien dans le process dans Azure qu'il tourne. Ici, j'ai un petit peu de log. Donc s'il y avait une erreur, j'aurais pu le voir. J'aurais eu un problème sur mon output. Donc j'arrive sur le portail que Stéphane a évoqué ce matin. Je vois les dernières exécutions de mon script. Et ici, je vais récupérer dans le log tout l'output qui a été généré. Donc vu que j'ai fait un écho ici, je vois bien mon écho ici. Mais on pourrait imaginer toutes les instructions d'erreur qui sont apparues à ce niveau-là. Donc très très simple pour faire tourner des choses simples. Aucune connaissance particulière à avoir dans Azure, si ce n'est l'upload au travers du portail. Maintenant, on va faire la même chose avec une approche dev. Donc je ne veux pas utiliser de script CMD. Je veux directement développer en .NET. Donc je vais venir dans Visual Studio, ici. Je vais faire un projet. Pareil, on va faire extrêmement simple. Je vais vers une application console que je vais appeler Demo Azure Camp, ici. Et on va faire comme on faisait un worker role. Alors là, j'ai aucune dépendance à un SDK particulier, c'est vraiment du .NET traditionnel. Je vais faire un while true, donc une boucle infinie comme si c'était un service Windows ou un worker role. Je vais faire pareil, un console.writeline hello. Et on va le faire un petit peu patienter quand même, system.threading. .thread, .sleep, toutes les secondes. Ok, j'exécute en local, mon application console fonctionne, donc ça pourrait être une application que je reprends, elle fonctionne. Et maintenant, je vais vouloir la publier dans Azure pour qu'elle tourne comme mon script, mais depuis Visual Studio. Ici, je vais faire un clic droit sur mon projet et je vais le publier en tant que Azure Web Job. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va me demander comment je veux le publier, on va me demander de renseigner quelques informations, je vais dire, c'est une boucle infinie, elle va tourner en boucle. Et là, il va me faire un petit peu de configuration, donc il va chercher des packages NuGet, il ne va pas altérer mon code, mais il va juste me préparer le packaging pour qu'il parte dans Azure. Je vais dire que je vais publier ça dans un Azure Website, il m'a reconnu, je suis authentifié dans Visual Studio, je vais aller choisir l'endroit où je veux le déployer, donc là, il est en train d'analyser ma souscription, je vais aller chercher mon Web Job Hosting ici. Ok, je laisse faire sa vie, il récupère ce qu'il veut, je ne veux pas trop savoir, et je publie. Là, automatiquement, je passe en Web Deploy, donc c'est comme si je déployais du code source traditionnel. On voit que dans ma solution, il m'a rajouté des settings, des choses pour expliquer comment déployer. Et puis, normalement, donc c'est à ce moment-là que ma machine surchauffe. Vous pouvez tous faire du vent, voilà, super. Et ici, dans 3, 2, 1, je vais récupérer le focus. Voilà. Il me dit que c'est bon, ça a été publié comme un site web. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser directement depuis Visual Studio. Donc ici, je suis dans mon serveur Explorer. Je me suis connecté à ma souscription Azure. On va faire un petit refresh là-dessus. Je vois la liste de mes websites dans ma souscription. Je retrouve bien mon webjob hosting. Ici, je retrouverai mes fichiers si j'avais du code. Là, on voit que j'en ai pas. J'ai un site vide. Et ici, avec la dernière version du SDK, je retrouve la notion de webjob. Et là-dedans, je vais retrouver directement mes webjobs déployés, donc ceux qui sont publiés à la demande. Donc je vois tout le test script que j'ai écrit tout à l'heure et celui que je viens de déployer, démo Azure Webcam. Et là, je vais pouvoir faire, comme on le fait maintenant avec les websites, faire du remote debugging. Donc ça tourne bien dans Azure. Ici, j'ai un process, ça tourne dans Azure. Donc on voit, je peux l'arrêter, mais je ne peux pas le démarrer parce qu'il a déjà démarré. Je vais pouvoir rattacher le debugger à distance sur cette interface-là. Donc là, on va attendre dans une seconde. Voilà, donc j'ai bien eu mon point d'arrêt. Et donc, je pourrais le débugger sans aucun souci. Donc, c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs, de déployer, de débugger un webjob qu'on pourrait le faire avec un service Windows comme on le faisait avant. Donc, les scénarios complexes restent possibles et sont beaucoup plus simples à développer qu'avant. Depuis ici, je peux toujours accéder à mon dashboard. Je vais bien voir ici que mon webjob, il est en train de tourner. Je vois bien mon output ici qui tourne en boucle. Et tout fonctionne sans aucune dépendance particulière, j'insiste toujours sur ça, par rapport à quelconque SDK. Donc, prenez vos applications existantes et publier là-dedans sans aucun souci. Je te fais un petit switch. Ah non, t'es en train de faire autre chose. Merci Stéphane. T'as qu'à faire tes mails pendant que je bosse. Donc ça c'est cool. Vas-y, ouais, retourne à tes mails, c'est bon, je continue. Donc ça c'est chouette. Ouais, c'est bon, mais laisse tomber, t'as plus de micro Stéphane, en plus, t'es perdu là. Ça c'est chouette pour faire du... Donc j'ai fait de l'exécution à la demande, de l'exécution en boucle. Maintenant, j'ai envie de bénéficier d'un scheduler, donc de pouvoir vraiment planifier mon exécution de tâches et pas avoir à écrire toute la logique comme on le faisait avant. Donc pour ça, je vais re-switcher, ça sera plus simple. Je vais reprendre un exemple simple. Je vais reprendre mon premier script, ici, qui était là, et je vais maintenant mettre en place un planificateur. Là où ils sont malins dans Azure, c'est que ils réinventent pas la roue à chaque fois. Donc je vais donner un nom aléatoire à mon script, je vais reprendre le même, il s'appelait démo ici. Et ici, je vais dire que je veux l'exécuter selon une planification. Or, dans Azure, il y a déjà un scheduler, planificateur en français, qui sait exécuter des tâches de manière récurrente. C'est comme ça que fonctionne l'AlwaysOn. D'ailleurs, il réveille mon serveur de VS régulièrement. Et donc là, je vais lui dire, pour exécuter mon script, je veux que tu me configures tout seul un planificateur. Donc là, je suis encore dans la configuration de mon webjob. Je vais dire que je verrai une tâche périodique qui survient, par exemple, toutes les minutes. Je vais le démarrer tout de suite et puis je veux l'arrêter à telle date. OK. Donc là, il me déploie mon webjob comme tout à l'heure. Mais la différence, c'est qu'ici, il m'a configuré un planificateur. Ce planificateur, en fait, si je reviens ici dans le menu, il n'est pas porté par le site web, mais il est porté par le service de planification, planificateur. Et ici, en fait, il m'a créé une collection de tâches de scheduling avec le même nom que mon website, dans lequel je vais retrouver ici ma tâche qui vient d'être fraîchement créée. Donc, et ici, je pourrais retrouver, j'ai une web host hosting, le nom de ma tâche, et ici, je vois que elle n'a pas encore été exécutée, c'est toutes les minutes, mais qu'elle va s'exécuter toutes les minutes avec le nombre d'échecs et tout mon log lié à mon scheduling. Donc, je retrouverai mon log dans l'autre interface, mais là, j'ai vraiment mon log sur la planification. L'avantage à ça par rapport à une planification manuelle ou du IaaS, c'est que là, on me garantit que ça va être exécuté quoi qu'il arrive. On est sur un scheduler version cloud. Donc j'ai un problème sur mon webjob derrière, j'ai un problème de data center, il y a ce que vous voulez. Peu importe, on me garantit que ça va s'exécuter. C'est vraiment une approche orientée scalable.
Donc il y a d'autres modes de déclenchement. Le déclenchement par un événement externe, donc on peut le faire sur l'apparition d'un message, un message qui arriverait dans une file d'attente, dans du storage blob, dans une file d'attente service BusQ ou storage Azure. Et donc on va s'appuyer sur un SDK spécifique qui va nous amener un job host, un objet particulier qu'on va pouvoir paramétrer pour ce faire. Et donc un exemple d'application pour illustrer ce principe, c'est le suivant, c'est très classique, un site web qui permet de créer des annonces, qui permet d'uploader des images par rapport à ces annonces et qui permet, avec un webjob justement, de créer des thumbnails automatiquement et de mettre à jour l'URL du thumbnail dans la base de données. Donc, comment ça se passe? On va voir ça ensemble très rapidement. Merci Florent. Donc il y a un mode de communication qui est proposé, qui est très intéressant avec WebJobs, c'est un mode de communication dit par binding, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement se binder sur une file d'attente ou sur un storage, donc ici typiquement sur du blob storage, en lecture, j'ai un stream input, et dès qu'un message sera posté dans le storage que j'ai configuré, dès qu'une image sera postée dans ce compte de stockage, eh bien, je serai en mesure d'aller prendre cette image et d'automatiquement convertir cette image en thumbnail, et je vais préciser dans quel blob je vais aller faire l'output de l'image en question. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait faire hier en workerroll, mais là, c'est simplement pratiquement par configuration, bon, il y a un peu de code quand même, qu'on va mettre en place cette mécanique. Donc, comme je le disais, on peut le faire au niveau du storage ou au niveau d'une file d'attente avec un queue trigger. Typiquement, ça donne quoi sur notre site? Par exemple, ici, je peux créer un add. Une maison.
Une voiture d'occasion.
Garde ta maison. Ouais, je garde ma maison. Il y a Florent qui vend une maison en ce moment. Jolie maison. Hein. Voilà. Donc, si je vais dans mes pictures, je devrais avoir... ta maison, elle ressemble à ça, là, la dernière fois que je l'ai vue. Voilà, real estate.
Heureusement qu'on n'est pas sur le PC de ton camarade, parce que...
Voilà, create. Est-ce que j'ai bien cliqué sur create, c'est important? Je crois pas. Donc là, j'ai une entrée qui a été créée en base de données. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un processus qui se lance et qui aille me créer une image pour que je vois apparaître ici un thumbnail. Donc, si je vais sur mon website... Alors bon, je l'ai fait travailler, on verra très rapidement pourquoi. Ici, j'ai mes webjobs. J'ai un always on webjobs pour garantir que mon site est toujours en train de tourner. Et j'ai mon webjobs qui tourne dès qu'il voudra bien s'afficher. Voilà, celui-ci. Et donc j'ai la possibilité, comme je le montrais ce matin, d'aller voir des informations sur les détails d'exécution de mon webjobs. Et donc je peux regarder les fonctions qui sont proposées. Et là, je vois que j'ai une fonction qui s'appelle Generate Thumbnails, la fonction que nous avons vue, et je peux voir... alors, je crois qu'il ne s'est pas encore déclenché. Alors, il faut dire que je sollicite beaucoup les webjobs. Donc, qu'est-ce que je suis en train de leur faire à ces webjobs? J'ai lancé en parallèle un certain nombre... J'étais pas en train de traiter mes mails, je suis en faux par rapport à ce qui a été dit. Donc, j'ai lancé un certain nombre de scripts qui invoquaient des messages, donc j'en ai lancé beaucoup, pour voir un peu ce qui se passait quand on s'amusait avec l'autoscaling, ici... Au niveau de WebJobs, comme je disais, ça dépend de... Ça dépend de la même infrastructure que les Azure Websites. Donc j'ai été obligé de me mettre en standard. Là, je vais configurer deux instances par défaut, pouvoir monter jusqu'à quatre instances, et en fonction d'un niveau de CPU plutôt raisonnable, hein, parce que je voulais absolument que ça bouge, j'ai fait en sorte que le WebJobs monte en nombre d'instances. Donc concrètement, par rapport au monitoring que je montrais ce matin, là, un instant T, j'avais trois instances. C'est-à-dire au moment où j'ai fait cet affichage, j'étais déjà à trois instances. Et par la suite, j'étais déjà monté à quatre instances. Donc ça, évidemment, on a la capacité à faire monter beaucoup les choses. Et donc, théoriquement, si je n'avais pas mon WebJobs qui est en train de pomper, si je n'ai pas un fort taux de charge sur mon WebJobs, je verrais apparaître ici une image, je vous le garantis. Il faudrait que je lui demande. Il faudrait aussi que je lui demande de se calmer, là, je pense.
Ce qui est intéressant, c'est que tu approches par attribut. C'est qu'avant, un workerroll pour faire de la synchrone, il fallait écouter sur une queue, donc on utilisait le SDK Storage, le Service Bus. Pour ça, peu importe, mais ça demandait quand même une petite implémentation. Il va falloir que je me connecte à la queue, que j'écoute et que je fasse quelque chose quand un événement est levé. Là, directement, en mettant l'attribut au-dessus de la méthode, vous allez dire, si quelque chose se passe là-dedans, récupère-moi le contenu. Donc ça vous fait gagner à chaque fois un pourcentage non négligeable de code et ça simplifie vraiment la lisibilité de tout ça. En plus de cette approche au niveau du portail qui va vous permettre d'invoquer vos méthodes sans avoir à simuler, même s'il faut que je poste un message dans une queue, pour pouvoir le tester.
Dernier point avant de céder la parole à nos petits camarades, on a tout un ensemble de possibilités en termes d'instrumentation de la solution. Donc on a un text writer que j'ai utilisé dans le code ici, sur le Qtrigger. J'ai simplement utilisé un text writer log, donc qui est connu de mon job host, et j'ai été écrire le nom de la machine, parce que je voulais voir sur quelle machine j'étais à un instant T, et donc c'est une information que je récupère ici. RD, c'est RedDog, c'était le nom de code d'Azure au tout début. Voilà, donc on peut passer la parole à notre camarade. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions sur WebJobs, n'hésitez pas.
Merci. Donc on a 15 minutes au lieu de 30, c'est ça? Ouais. On va aller plus vite. Ok, donc on est la dernière barrière avant la pause. Alors on va essayer de faire vite, mais on a quand même des trucs sympas à vous montrer. Donc on va parler cette fois d'Azure Media Services. Donc un peu comme mon petit copain Steph, je suis venu avec quelqu'un d'Infinite Square également qui s'appelle Julien. Voilà. Et donc on va parler donc d'Azure Media Services. Donc Azure Media Services, je prends un peu d'avance avant que les slides commencent à défiler. Qu'est-ce que c'est ? C'est un service PaaS, hein, comme tous les services PaaS que vous avez pu voir, donc qui permet de gérer vos médias vidéo dans le cloud. Donc gérer vos médias vidéo, c'est un vaste sujet. Donc on va essayer de le couvrir donc très rapidement. Tu peux passer au slide suivant. Alors on va passer très vite sur les slides marketing. Dans l'idée, aujourd'hui, il y a déjà 7,2 milliards de devices qui sont capables de gérer de la vidéo. Ils se multiplient 5 fois plus vite que nous. D'ici 2016, ils en prévoient 20. On entend des nouveaux mots genre 10 exabytes. Alors je regardais, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est 1000 pétas. Alors bon, ça grossit, il y en a de plus en plus. Et si on regarde concrètement d'ici 2020, dans l'idée, c'est que bah, il y aura 90% du trafic Internet qui sera de la vidéo. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé forcément bah, d'avoir un service cloud qui puisse gérer l'élasticité et la scalabilité de ce type de service. Donc qu'est-ce qu'on entend par Azure Media Services ? Azure Media Services, c'est un ensemble d'API qui va vous permettre de gérer votre workflow vidéo. Et qu'est-ce qu'on entend par workflow vidéo ? C'est donc une succession d'étapes que vous allez devoir suivre quand vous voulez faire de la vidéo depuis le cloud. Donc la première, évidemment, c'est donc envoyer vos vidéos dans le cloud. Qu'elles soient à la demande ou en direct, il faut envoyer cette vidéo dans le cloud. Derrière, il faut la préparer, la compresser. C'est de l'encodage, c'est du packaging ou multiplexage. Il y a de l'indexation, on va voir tout ça, de la protection, donc la sécurisation de votre contenu. Puis la diffusion, parce que la diffusion, évidemment, pour faire simple, en fonction des devices, bah, ça varie. Donc on a tout un tas de protocoles à gérer. Il faut savoir s'intégrer avec des CDN pour tenir la charge. Et puis bah, derrière, il y a également des players. Donc tout ça avec un écosystème de partenaires qui n'arrête pas de grossir avec un certain nombre de solutions spécifiques. Il y en a plein. Donc si vous voulez en parler, si vous êtes vraiment sur le sujet, venez me voir après la session à la pause. On en parlera. Ok. Donc je vais pas, ça c'est juste pour vous faire peur, donc je vais pas vous embêter avec ce slide. Dans l'idée, Azure Media Services c'est complexe, il y a un certain nombre de choses qui sont donc disponibles déjà d'ores et déjà aujourd'hui. Pour faire un rapide rappel sur les nouveautés qui ont été annoncées à l'IBC à Amsterdam cette année en septembre, donc la disponibilité du live, donc le live est disponible depuis en preview. La GA, donc General Availability, arrive, j'ai pas le droit de communiquer la date, mais suivez le blog Azure, ça ne devrait plus tarder. Voilà, je dirais rien de plus. L'encodage, on a un certain nombre de tiers, donc un peu comme les différents tiers de services que vous avez pu voir, on a différents tiers pour l'encodage, donc qui est plus rapide et donc moins cher. De la protection dynamique, on va en parler. Pareil pour la gestion des clés, de l'indexation de contenu et davantage de lecteurs, avec un partenariat qui a été annoncé avec JW Player, qui est un acteur phare du monde des players vidéo, players flash, et pas que. Ok, donc pour parler rapidement de l'encodage, donc je parlais avec, donc, comme quoi il y a différents tiers, donc il y a le basique qui est gratuit. Vous allez juste payer, disons qu'il est gratuit, vous payez pas d'unité d'encodage. Par contre, vous payez quand même tout ce qui sort de l'encodeur. Après, il y a deux autres offres, il y a une offre standard et une offre premium. Les grosses différences, c'est que vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite en fonction des offres. Pour vous donner un ordre d'idée, en premium, donc vous êtes à 4 à 5 fois plus rapide qu'en basique, ce qui revient à un film d'une heure qui est en Full HD en 1080p, vous allez pouvoir l'encoder en une heure également, mais avec 8 bitrate, donc 8 qualités vidéo différentes. Voilà, donc il y a également des unités qui sont disponibles, donc vous allez pouvoir scaler et gérer l'élasticité de votre encodage. Donc si vous voulez, par exemple, lancer, réencoder toute votre mezzanine de vidéo. Et vous en avez plein, hein. Vous êtes un Netflix ou je ne sais pas qui, bah vous allez pouvoir le faire en un mois parce que vous allez pouvoir allouer par exemple 1000 unités d'encodage, et c'est ce qu'a fait l'un de nos clients qui s'appelle Blinkbox en Angleterre. Ils ont eu à réencoder toute leur mezzanine de vidéo, et ils l'ont fait en un mois au lieu de plusieurs années s'ils avaient dû le faire sur leur ferme d'encodage. Vas-y. Alors, toujours sur l'encodage, je vais vite. L'encodage, ça peut être complexe. Donc, en fonction du type d'encodage que vous voulez faire, il peut y avoir plus ou moins de prérequis. Les studios et les chaînes de télé, les broadcasters, ils ont des prérequis très forts. Et donc forcément, on a des outils pour eux également. Donc on a un premium workflow, un Azure Media Encoder premium workflow qui permet d'aller créer votre workflow d'encodage dans un designer. Donc c'est principalement pour des fonctionnalités du style multilangue, sous-titrage, et éventuellement même d'appliquer directement des DRM au niveau de l'encodage. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire très simplement dans une interface comme celle que vous voyez en fond. Et derrière, ça va générer un fichier XML, un blueprint que vous allez pouvoir uploader dans Azure Media Services, qui sera donc le comprendre et l'utiliser au moment de l'encodage. Donc l'indexation de contenu, donc, qui a été annoncée également en septembre, donc, permet de faire donc, du speech to text. Donc on va être capable de convertir l'audio d'une vidéo en texte. Alors à quelle fin? Principalement à des fins de recherche. Alors je pourrais faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Azure Search, mais aussi pour du SEO. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller vous rendre directement dans la section de la vidéo qui vous intéresse. Et c'est ce qu'a fait le Washington Post. Donc ils l'ont fait pour tout leur contenu. Alors aujourd'hui, c'est qu'en anglais, on travaille à intégrer des nouvelles langues. Et si vous avez des cas, bah, venez me voir et on travaillera ensemble dessus. Ok, la protection de contenu. Donc, alors on avait déjà la possibilité de faire de l'upload en HTTPS ou sur de l'UDP sécurisé et de stocker en sécurisé dans le blob storage. Jusque-là, rien de nouveau. Les nouveautés sont plutôt au niveau du chiffrement dynamique. Donc, maintenant, on peut faire donc un chiffrage dynamique au moment où on va streamer vos vidéos. C'est-à-dire qu'au niveau de l'origine, le serveur de streaming qui va aller pousser un flux en fonction du device, donc par exemple vous êtes sur un iPhone, on va vous pousser un flux HLS, et ben on va être capable d'aller encrypter, donc chiffrer à la volée dynamiquement le chunk de vidéo qu'on va vous envoyer. L'intérêt, c'est que ça vous évite de stocker à chaque fois une version donc chiffrée en AES, en PlayReady, donc qui sont donc deux méthodes de chiffrement différentes. Donc PlayReady sera davantage utilisé par les studios ou les chaînes de télé, donc c'est vraiment pour du contenu premium, et AES 128 ClearKey plus pour de l'entreprise, du contenu qu'on veut protéger mais où il y a quand même moins de restrictions. Pour l'hébergement des clés et la livraison des licences, donc soit vous pouvez continuer de le faire à demeure, ou alors vous pouvez le faire dans le cloud. Donc vous allez pouvoir directement aller requêter vos clés et les récupérer depuis le cloud. Donc on a un service de PlayReady as a service, si vous voulez, et vous payez au nombre de requêtes. Et puis pareil pour AES ClearKey. Donc c'est deux possibilités. On a également une intégration qui a été faite avec Azure Active Directory, dont on a parlé ce matin, pour avoir la possibilité de se connecter avec un token, et donc récupérer un token au moment de l'authentification. Ok, donc maintenant côté player, donc la dernière chaîne, on a évidemment tout un tas de player frameworks qui sont disponibles pour lire vos vidéos. Donc
ça va au niveau du temps ?
Ouais. Ok, donc voilà, donc on a également des SDK, des lecteurs d'exemples. Nativement dans Azure Media Services, on supporte tous les protocoles nécessaires pour lire de la vidéo sur les différents devices. Donc HLS V3 par exemple, qui était nécessaire pour Android, a été rajouté récemment, mais vous pouvez faire tous les autres, donc HLS V4 pour Apple, MPEG Dash pour le web, c'est-à-dire que plus besoin d'adhérence avec du Silverlight ou du Flash, et puis j'oublie quoi, HDS côté Adobe. Et Smooth Streaming chez Microsoft, quand même. On va le montrer dans la démonstration. Ouais. Donc j'en dis pas plus. Zap. Ça, je pense qu'on va le zapper. Je vais juste expliquer ce que c'est. Le multiplexage dynamique. Non, mais j'explique vite.
Fais-le vite.
Le multiplexage dynamique, qu'est-ce que c'est ? Alors, avant, quand on faisait donc du packaging dans le cloud, on était obligé de stocker à chaque fois N versions de votre asset. Donc, on allait devoir faire une version pour de l'HLS, une version pour du Smooth Streaming, une autre pour du Dash, etc. Et puis derrière, cette version, elle était streamée. Le gros inconvénient, c'est que ça vous obligeait à stocker N versions de votre asset. Netflix, ils avaient 123 profils comme ça. Donc 123 fois la même vidéo. Donc ce qu'on a fait, donc ça on l'a déjà fait depuis quelques temps, donc on avait sorti du multiplexage dynamique qui permettait non plus de stocker N versions, mais d'en stocker qu'une, qui avait donc N qualité, et puis de faire ce packaging à la volée au niveau du serveur de streaming, ce qui permettait forcément de gagner en coût de stockage et d'adresser de la même façon tous les devices. Comme ça, tu peux passer au slide d'après.
C'est joliment fait rapidement.
C'est bien. Et donc, on a fait la même chose dans le même esprit pour la partie chiffrement, et donc la possibilité de faire ce chiffrage à la volée, exactement de la même façon au niveau du serveur de streaming, que ce soit en AES ClearKey ou en PlayReady. Et on va en ajouter d'autres. Sur ces belles paroles, je passe la main
à moi.
À toi.
Et on va parler
du live.
Du live et du streaming à la demande au moment où Jeff rentre dans la salle. C'est parfait. Donc en gros, comme Benjamin le disait, depuis peu, on a en preview un service de live streaming dans Azure. Donc en gros, le concept est assez simple. Donc je vais vous montrer tout ça dans une démo. Donc ce qu'on a, grâce à Jeff, c'est en régie, là, pour au niveau de l'amphi bleu, un PC qui nous stream le flux live directement dans Azure. Donc l'ingest est fait en RTMP. Aujourd'hui, on peut le faire soit en RTMP, soit en MP4 Smooth. Et en fait, derrière, on va pouvoir automatiquement rediffuser ce flux en live ou alors créer ce qu'on appelle des programmes pour pouvoir enregistrer le flux live et pouvoir le reproposer à la demande derrière. Donc je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur les slides et je vais passer sur la démo. Donc là, je suis connecté sur mon portail Azure. Je suis dans un service de médias, Azure Media Services ici, où j'ai déclaré dans la section de channels ici un flux live qui, comme on peut le voir ici, m'expose donc une URL en RTMP. Et au niveau de la machine qui est dans le... Ah, bah merci. Donc en plus, j'ai pas de démo. Donc en gros, sur la machine qui est en régie, il y a un encodeur logiciel qui s'appelle Wirecast, auquel on a donné cette URL ici à manger. Et donc a priori, on me dit qu'il n'y a plus rien, mais c'est pas grave, j'avais prévu un rolling buffer de 10 minutes. Donc bon, voilà. Il se passe pas grand-chose donc là sur le flux live. Par contre, comme j'ai un rolling buffer de 10 minutes, on va peut-être avoir la fin de la session. Non, j'ai rien du tout.
Bon. Pas en retard,
il va venir me mettre une webcam, donc on verra quelque chose dessus. Mais en gros, c'est vraiment le flux live qui est en train d'être streamé dans Azure. Et moi, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est comment faire en sorte, par le code, puisqu'on a un SDK à notre disposition, donc là, c'est un SDK .NET, hein, comme toutes les technos sur Azure, on peut les attaquer en REST. Donc on peut faire du .NET, on peut faire du Java, on peut faire plein de choses du moment qu'on sait faire une requête HTTP. Et donc là, l'idée, c'est que je vais utiliser le SDK .NET pour aller créer un programme associé à mon flux live et être capable de l'enregistrer pour pouvoir derrière le rediffuser à la demande et donc repartir à la limite dans un workflow média VOD, comme l'expliquait Benjamin, avec de l'encodage et puis du dynamic packaging derrière. Donc là, en gros, je vais l'exécuter en pas à pas, cette petite application. Ça build. Donc voilà, donc les premières choses que je fais, c'est aller récupérer les éléments qui me permettent de connecter à mon média service. Donc ça, je les ai dans mon fichier de configuration. Avec l'API, je vais aller récupérer le channel live qui correspond à celui que je vous ai montré dans l'interface avant, donc Azure Camp Live 2014. Ok, je l'ai bien récupéré à ce niveau-là. Et je vais pouvoir donc faire quelques vérifications, que je l'ai bien récupéré, que son état est bien running, donc il est bien en cours d'exécution. Et à partir de là, je vais pouvoir venir créer un programme. Donc le programme, c'est vraiment l'unité qui va me permettre de définir quelle est ce qu'on appelle l'archive window length, donc en gros la durée pendant laquelle je veux sauvegarder le contenu vidéo qui est streamé. Ça va me servir à deux choses. D'une part, avoir dans mon live une fonctionnalité de rolling buffer pour revenir en arrière dans le flux qui est diffusé, mais également tout simplement pour dire si je mets une archive window length de 60 minutes, le programme que je vais enregistrer il durera au maximum 60 minutes qui seront coulantes dans le temps. Pour créer ce programme, je vais d'abord devoir créer un asset. Donc un asset, en fait, c'est une collection de fichiers au niveau Media Services. Donc c'est là où je retrouverai les différents chunks du fichier associé au live. Donc je vais le créer ici, à ce niveau-là. Donc là, j'ai précisé une archive window length de 10 minutes. Donc je peux revenir 10 minutes en arrière dans mon flux. Et ensuite, je vais venir démarrer mon programme. Donc là, le démarrage est en cours. Si je viens sélectionner le programme dans mon interface, enfin le channel live, je vais pouvoir accéder à la liste des programmes. Donc là, je vois que j'en ai un qui est en cours de démarrage. Et il va enregistrer sur une fenêtre de 10 minutes tout le temps où je vais le laisser en cours d'exécution. Je vais revenir sur cette page-là. Je ne sais pas si la webcam a démarré. Si, voilà, j'ai une webcam. Merci Jeff, encore une fois. Donc là, je peux voir ce qui se passe dans la salle. Et donc là, mon programme, il est en train d'enregistrer. Donc là, mon application s'est bien coupée. Je peux visualiser le flux. Et si je reviens ici, je vois bien que mon programme est démarré, donc ça démarre très vite, et à ce moment-là, ça y est, c'est parti, l'enregistrement est en cours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le programme. Donc première chose que je vais faire, c'est récupérer l'asset média qui était associé à mon programme. Ensuite, je vais venir le stopper, ça va prendre quelques secondes, et je vais venir supprimer mon programme, j'en ai plus un. Alors une petite chose à savoir si vous voulez vous lancer dans le live Media Services, c'est que pour l'instant, vous pouvez avoir que 3 programmes en état running en simultané par channel. Donc si vous voulez faire des enregistrements, il faut penser à les supprimer, sinon ça ne fonctionnera pas. Et derrière, je vais récupérer mon asset qui est lié au live, et là, je re-rentre dans un scénario VOD assez classique. Je vais pouvoir le publier sur les serveurs d'origine de Microsoft, donc ceux qui me permettent de les streamer après en VOD. Et donc pour ça, je vais me créer une access policy, là je la crée pour 2 jours, un locator qui va me permettre de récupérer les URL qui vont bien pour pouvoir attaquer mon fichier en smooth streaming, en MPEG dash ou en HLS. Donc là, j'ai l'URL qui est indiquée ici, donc on voit sur les serveurs d'origine. Si je regarde, mon programme, il a bien disparu à ce niveau-là. Et si je fais entrer ici, je vais juste lancer un process qui va me lancer IE sur un site web qui me permet de tester le flux. Donc là, derrière, je vais bien passer, moi, le manifeste du flux live. Et donc là, bah, je peux me balader sur mon flux VOD et puis le rediffuser vraiment à la demande quand j'en ai envie. Je ne suis plus du tout, en live sur cette opération. Voilà pour la démonstration. Le dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est l'Azure Media Service Explorer. Je vous conseille vraiment, si vous voulez partir sur Azure Media Services et que vous voulez ne serait-ce que tester le produit qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses sans forcément vous plonger tout de suite dans le code, c'est tout simplement un outil qui est développé par Xavier Pouya qui travaille dans l'équipe Media Services et qui on a la chance d'avoir quelqu'un en France qui travaille sur le produit. Et en gros, qui permet de faire à peu près tout dans Azure Media Services, mais sans avoir à écrire de code. Donc en gros, vous pouvez visualiser vos assets, vous pouvez visualiser vos flux live, vous pouvez créer des programmes, vous pouvez les démarrer, vous pouvez lancer des travaux d'encodage, la génération de thumbnails, etc. etc. Et donc là, on peut voir, si je rafraîchis ici, j'ai un programme qui est apparu à 15h28, là c'est le programme que j'ai enregistré, et puis j'en avais enregistré un autre ce matin, pendant que Stéphane était en train de parler en plénière. Donc je peux venir ici le revisualiser. Voilà, et donc là, je peux revisualiser un bout du contenu de la plénière de ce matin qui a été enregistré juste aussi par la petite application. Donc plein de scénarios comme ça qui peuvent être couverts avec la brique live, de l'enregistrement jusqu'à à nouveau la proposition du contenu à la demande. Et puis après, c'est vous qui gérez comment c'est streamé. Vous pouvez rajouter de la content protection pour faire du play ready, pour faire de l'AES. Vous pouvez également faire directement du chiffrement sur le flux live si vous souhaitez le publier directement sans l'enregistrer. Donc bref, plein de possibilités à ce niveau-là.
La vidéo de la régie.
Et oui, donc éventuellement pour vous montrer, pour finir, parce qu'en fait on a réussi à rattraper le temps. Donc comment c'était fait en régie. Voilà, donc tac, je vais juste... Non, j'ai pas le droit de faire pause, non. Non, on ne fait pas pause. Si, tac. Si je reviens un tout petit peu en arrière. Donc là, c'est la machine en fait, qui a un encodeur qui est installé dessus qui s'appelle Wirecast. Et en gros, moi, je suis juste allé copier à l'intérieur l'URL de mon flux Azure Media Service Live. Et Jeff l'avait au préalable configuré pour avoir la sortie du flux live qui rentre dans ce PC-là et qu'on a rediffusé comme ça dans Azure Media Services. Donc un fonctionnement très simple avec vraiment là, Wirecast, un outil qui est fait pour ça. On copie-colle l'URL et puis ça fonctionne dans Azure. Puis au final, derrière, on peut même, depuis l'interface Azure, aller publier directement le flux, le rendre accessible. On n'est même pas obligé d'écrire une ligne de code si on veut, comme ça, pouvoir tester juste comment ça marche. Ça fonctionne avec 0 code. Voilà, merci pour votre attention.